Chapitre 16. Histoire d'une rupture. À Paris, il y avait beaucoup de malades. Chrismala venait de passer 17 jours sans dormir. De la Croix, plus souffrant que jamais, se traînait quand même au Luxembourg. Chopin, lui aussi, cherche à donner le change, comme il l'a fait durant toutes ces dernières années. Mais à la longue, il est bien forcé d'avouer qu'il n'a pas le courage de quitter un instant sa cheminée. Arrive le jour de l'an de 1847. Il envoie à Georges les bonbons d'usage, ses vœux, et, tout en mitouflé de manteau, se fait conduire à l'hôtel Lambert, chez ses amis Kchatorisky. À Nohant, on fait semblant d'être heureux. La pantomime sévit. On brosse des décors, on coud des costumes. Cette famille si unie jouait aussi la comédie. Mais tout à coup, l'on plie bagage pour rentrer à Paris au début de janvier, laissant en plan M. Despréaux, le fiancé de Solange. Et à peine est-on installé depuis un mois au square d'Orléans, que tout change de face par l'entrée en scène d'un nouvel acteur, le sculpteur Clésinger. C'était un homme de 33 ans, violent, sanguin, enthousiaste, qui venait seulement de se faire connaître dans les expositions et gagner du premier coup la gloire. Il avait demandé à faire le buste de Madame Sand, vint chez elle, vit Solange, et s'en est pris à l'instant. Elle s'enflamma presque aussi vite. Le mariage projeté avec M. Despréaux fut remis aux calendes, malgré les perplexités de Georges qui avait recueilli sur le sculpteur des renseignements assez fâcheux. Un monsieur bruyant et désordonné, un ci-devant cuirassier devenu un grand sculpteur, se conduisant partout comme au café du régiment et à l'atelier, disait Arsène Housset. Toute décision fut prorogée. La romancière ramena sa fille à Nohant dès après les premiers jours de la Semaine Sainte, au commencement d'avril. Chopin eut tout de suite sur ces événements un sentiment arrêté. D'abord le regret de voir manquer l'union berrichonne, qui lui paraissait convenable et douce. Ensuite, une répugnance instinctive le rendit hostile au tailleur de pierre, comme il appelait Clésinger. Il écrivit au sien
« Sol ne se marie pas encore. Et quand ils sont tous arrivés à Paris pour faire le contrat, elle n'en a plus voulu. Je le regrette, je plains le jeune homme qui est très honnête et très épris, mais il vaut mieux que cela soit arrivé avant le mariage qu'après. » Soi-disant, c'est remis à plus tard, mais je sais ce qu'il en est. »
Georges, de son côté, confie son inquiétude à un ami.
« En 6 semaines, elle a rompu un amour qu'elle éprouvait à peine. Elle en a accepté un autre qu'elle subit ardemment. Elle se mariait avec celui-ci, elle le chasse et épouse celui-là. C'est bizarre, c'est hardi surtout. Mais enfin, c'est son droit et le destin lui sourit. À un mariage modeste et doux, elle substitue un mariage brillant et brûlant. Elle domine tout et m'emmène à Paris à la fin d'avril. Le travail et l'émotion prennent tous mes jours et toutes mes nuits. Il faut que ce mariage se fasse impétueusement, comme par surprise. Aussi, est-ce un secret grave que je vous confie et que Maurice lui-même ne sait pas. Il est en Hollande. »
Chopin surtout ne devait rien savoir. Chopin, à qui l'on refuse maintenant toute participation trop intime aux affaires de famille. Georges se sent vraiment commandé cette fois par ce Clésinger farouche qui prétend parvenir coûte que coûte à ses fins. Il apparaît brusquement à la Châtre, il a des rendez-vous avec Solange dans les bois, il exige une réponse catégorique. Naturellement, elle dit oui puisqu'elle l'aime. Georges est obligé de céder malgré ses appréhensions, son effroi. Le 16 avril, elle appelle son fils à la rescousse car elle a peur, elle a besoin d'être rassurée. Elle ajoute en fin de lettre «
Pas un mot de tout cela à Chopin, cela ne le regarde pas. Et, quand le Rubicon est passé, les si et les mais ne font que du mal. »
Quand le Rubicon est passé, une fois de plus. Combien de fois l'a-t-elle passé dans sa vie, cette vieille habituée des ruptures? Et pourtant, elle fait semblant de ne pas voir que c'est le point critique de sa longue liaison. Le mariage de Solange, ce fait en somme tout extérieur à sa vie amoureuse, le voici devenu la planche où s'accroche encore la main du pianiste et qu'elle repousse d'un coup de son talon. Chopin entend parler en secret de ces choses, mais il ne dit rien, il n'interroge personne. Il attend que la confiance renaisse. S'il s'étonne de tout ce mystère, s'il devine même le côté délibéré et puéril de cette rupture notifiée aujourd'hui à son amitié, il n'en laisse rien paraître. Comme toujours, c'est sa santé qui paye ses douleurs muselées. Il tombe gravement malade. Ce n'est plus Georges qui le soigne, c'est la princesse Marceline Czatoryska. Un bulletin de santé est envoyé par celle-ci à Nohant.
Encore ce chagrin-là a ajouté à tout le reste, riposte Georges, le 7 mai. Est-il vraiment sérieusement malade? Écrivez-moi, je compte sur vous pour me dire la vérité et pour le soigner.
À cette même date, exactement, elle écrit pourtant dans son journal d'une plume bien calme.
Me voilà donc arrivé à 45 ans avec une santé de fer, traversée par des indispositions douloureuses, mais qui ne me donnent que quelques heures de spleen, dissipées le lendemain. Mon âme se porte bien aujourd'hui, et mon corps aussi.
Est-ce ce jour-là qu'elle est sincère, ou le lendemain, 8 mai, lorsqu'elle dit à Mademoiselle de Rosières
« Je suis malade d'inquiétude, et en vous écrivant j'ai un vertige. Je ne puis quitter ma famille dans un pareil moment, lorsque je n'ai même pas Maurice pour sauver les convenances et garder sa sœur de toute supposition malhonnête. Je souffre bien, je vous assure. Écrivez-moi, je vous en supplie. Dites à Chopin ce que vous jugerez à propos sur moi. Je n'ose pourtant pas lui écrire. Je crains de l'émouvoir. Je crains que le mariage de Solange ne lui déplaise beaucoup, et que chaque fois que je lui en parle, il naît une secousse désagréable. Pourtant, je n'ai pas pu lui en faire mystère, et j'ai dû agir comme je l'ai fait. Je ne peux pas faire de Chopin un chef et un conseil de famille. Mes enfants ne l'accepteraient pas, et la dignité de ma vie serait perdue. »
S'il s'agit de sa dignité, elle eût mieux fait d'y penser plus tôt. S'il s'agit de ménager la santé de Chopin, c'était trop tard aussi. Et les contradictions mêmes de sa lettre, elle ne les aperçoit pas. Le pauvre grand artiste reste ferme dans sa volonté de silence, et fier éperdument. Cependant, Georges vient de publier sa Lucrezia Floriani, qui est déjà la musique funèbre de son amour. Mais Chopin continue de n'y voir que
« de beaux caractères de femme et d'homme, beaucoup de naturel et de poésie. »
Cela va la contraindre de se confesser autrement, de s'expliquer davantage, car il y a toujours en elle cet impétueux besoin de justification qui la pousse, au moment décisif d'un commencement ou d'une fin d'amour, à faire confidence des forces qui la conduisent. Vers qui jeter cette fois encore les commentaires de son cerveau malade et montrer les fatigues d'un corps qui ne sera plus exigé désormais que de très brefs assouvissements? 8 ans auparavant, elle avait écrit au comte Ximala pour lui faire voir de quoi elle était capable et qu'un cœur comme le sien pouvait entrer successivement dans les phases les plus diverses de la passion. Si tout l'horizon de l'amour a été parcouru, il paraissait juste et même utile de faire le point au seuil de la nuit commençante. Le 20 mai, Solange fut mariée en hâte, et comme en cachette, à Nohant. Monsieur Dudevant assista à ces noces bizarres, où sa fille ne signa même pas de son nom le registre de l'état civil, mais du pseudonyme de sa mère. Et celle-ci, s'étant foulée un muscle, il fallut la porter à l'église.
« Jamais mariage ne fut moins gai, »
dit-elle. Il y avait dans l'air de mauvais pressentiments, et d'autres fiançailles encore, celle d'Augustine, l'amie de Maurice, que le jeune homme voulait marier à son camarade Théodore Rousseau, le peintre. Il se passa alors des incidents étranges. Les fiançailles d'Augustine furent brusquement rompues sous un prétexte futile. En réalité, c'était une vengeance de Solange. Par haine de sa cousine et rancune contre son frère, elle mit Rousseau au courant des relations qu'elle leur prêtait. Il rompit. Georges en fut outré, se plaignit avec amertume. Alors le ménage Clessinger, marié depuis un mois, revint à Nohant, leva le masque, et ce fut entre Georges et son fils d'une part, le sculpteur et sa femme de l'autre, des scènes d'une violence inouïe.
« On a failli s'égorger ici, » écrit la malheureuse Sande à Mademoiselle de Rosières. « Mon gendre a levé un marteau sur Maurice, et l'aurait tué peut-être, si je ne m'étais mise entre eux, frappant mon gendre à la figure, et recevant de lui un coup de poing dans la poitrine. Si le curé qui se trouvait là, des amis et un domestique n'étaient intervenus par la force des bras, Maurice, armé d'un pistolet, le tuait sur place. Solange, attisant le feu avec une froideur féroce, et ayant fait naître ses déplorables fureurs par des ragots, des mensonges, des noirceurs inimaginables, sans qu'il y eût ici, de la part de Maurice, et de qui que ce soit, l'ombre d'une taquinerie, l'apparence d'un tort. Ce couple diabolique est parti hier soir, criblé de dettes, triomphant dans l'impudence, et laissant dans le pays un scandale dont ils ne pourront jamais se relever. Enfin, pendant 3 jours, j'ai été dans ma maison sous le coup d'un meurtre. Je ne veux jamais les revoir. Jamais ils ne remettront les pieds chez moi. Ils ont comblé la mesure. Mon Dieu, je n'avais rien fait pour mériter d'avoir une telle fille. Il a bien fallu que j'écrive une partie de cela à Chopin. Je craignais qu'il n'arrivât au milieu d'une catastrophe et qu'il n'en mourût de douleur et de saisissement. Ne lui dites pas jusqu'où ont été les choses. On les lui cachera s'il est possible. Ne lui dites pas que je vous écris, et si monsieur et madame Clessinger ne se vantent pas de leur conduite, gardez-m'en le secret. J'ai un service à vous demander, mon enfant. C'est de prendre très positivement les clés de mon appartement dès que Chopin en sera sorti, s'il ne l'est déjà, et de ne pas laisser Clessinger ou sa femme ou qui que ce soit de leur part y mettre les pieds. Ils sont dévaliseurs par excellence, et avec un aplomb mirobolant, ils me laisseraient sans un lit. Ils ont emporté d'ici jusqu'aux courtes pointes et aux flambeaux.
Il est très important de remarquer deux choses. Dans cette première lettre à Mademoiselle de Rosières, Sand suppose que Chopin a déjà quitté le square d'Orléans, ou qu'il est sur le point de le faire. On verra tout à l'heure pourquoi. Dans la seconde, que je vais transcrire ci-dessous, il faut noter la date, 25 juillet. Ces indices vont servir à éclairer d'une certaine lumière une situation au premier abord confuse, mais que l'on débrouille assez bien si l'on ne perd pas de vue ces deux points de repère.
Nohant, 25 juillet. Mon ami, je suis inquiète, effrayée. Je ne reçois pas de nouvelles de Chopin depuis plusieurs jours. Je ne sais pas combien de jours, car dans le chagrin qui m'accable, je ne me rends pas compte du temps. Mais il y a trop longtemps à ce qu'il me semble. Il allait partir et tout à coup il ne vient pas, il n'écrit pas. S'est-il mis en route? Est-il arrêté, malade, quelque part? S'il était sérieusement malade, ne me l'écririez-vous pas, en voyant son état de souffrance se prolonger? Je serais déjà parti sans la crainte de me croiser avec lui et sans l'horreur que j'ai d'aller à Paris, m'exposer à la haine de celle que vous jugez si bonne, si tendre pour moi. Par moments, je pense, pour me rassurer, que Chopin l'aime beaucoup plus que moi, me boude et prend parti pour elle. J'aimerais cela 100 fois plus que de le savoir malade. Dites-moi tout franchement ce qui en est, et si les affreuses méchancetés, si les incroyables mensonges de Solange le gouvernent, soit. Tout me devient indifférent pourvu qu'il guérisse.
Chopin avait trop souffert, trop renoncé déjà, pour revenir en arrière et se laisser reprendre aux cris de cette mère dépouillée, de cette maîtresse durcie. Il ne voulait pas de sa pitié. Il ne lui donna même pas la sienne. Solange vint chez lui. Elle eut peu de peine à le convaincre qu'elle avait raison, tant sa méfiance et ses soupçons s'étaient solidifiés. Toute cette obscurité qu'on cherchait à maintenir autour de lui ne cachait-elle pas d'autres trahisons encore, d'autres libérations? Sa longue docilité se tourna tout à coup en un amer dégoût.
« Les cyprès aussi ont leurs caprices, »
dit-il. Ce fut sa seule plainte. Il écrivit à Georges, mais ni sa lettre, ni celle qu'il reçut en réponse n'ont été conservées. Les amants qui se sont donné 8 années de leur vie ne consentent pas à préserver dans leurs archives le bulletin de la suprême défaite. En revanche, si nous ne connaissons pas les termes dans lesquels ils rédigèrent l'acte de dissociation, nous en savons l'écho. Chopin montra au seul de la croix la lettre d'adieu qu'il avait reçue. Il faut convenir qu'elle est atroce. Note celui-ci dans son journal, en date du 20 juillet. Les cruelles passions, l'impatience longtemps comprimées s'y font jour, et par un contraste qui serait plaisant s'il ne s'agissait d'un si triste sujet, l'auteur prend de temps en temps la place de la femme et se répand en tirade qui semble emprunter à un roman ou à une homélie philosophique. Si j'ai souligné plus haut la date du 25 juillet où Georges se plaint d'être abandonné, c'est pour faire mieux ressortir que 5 jours avant déjà, le 20, Delacroix consignait dans son agenda l'existence de la lettre de rupture qu'il qualifie d'atroce. On peut donc s'étonner des étonnements de George Sand. Notons plutôt sa duplicité, et sans doute en prévoyait-elle trop bien les faits pour supposer un instant qu'il accourrait à Nohant. Elle comptait plutôt sur son déménagement. Cependant, elle tenait encore à donner le change, à se poser en victime. Décidée à rompre, elle redoutait la gloire et les amis de Chopin qui, plus tard, pouvaient rechercher la vérité au nom de l'histoire. Dans une 3e lettre à Mademoiselle de Rosières, elle écrivit donc ceci.
Sans date. Malade à mourir, j'allais voir pourquoi l'on ne m'écrivait pas. Enfin, j'ai reçu par le courrier du matin une lettre de Chopin. Je vois que, comme à l'ordinaire, j'ai été dupe de mon cœur stupide, et que pendant que je passais 6 nuits blanches à me tourmenter de sa santé, il était occupé à dire et à penser du mal de moi, avec les Clésinger. C'est fort bien. Sa lettre est d'une dignité risible, et les sermons de ce bon père de famille me serviront en effet de leçon. Un homme averti en vaut deux. Je me tiendrai désormais fort tranquille à cet égard. Il y a là-dessous beaucoup de choses que je devine, et je sais de quoi ma fille est capable en fait de calomnie. Je sais de quoi la pauvre cervelle de Chopin est capable en fait de prévention et de crédulité. Mais j'ai vu clair enfin, et je me conduirai en conséquence. Je ne donnerai plus ma chair et mon sang en pâture à l'ingratitude et à la perversité. Me voici désormais paisible et retranché à Nohant, loin des ennemis acharnés après moi. Je saurai garder la porte de ma forteresse contre les méchants et les fous. Je sais que pendant ce temps, ils vont me tailler en pièces. C'est bien. Quand leur haine sera assouvie de ce côté, ils se dévoreront les uns les autres. Je trouve Chopin magnifique de voir, fréquenter et approuver Clésinger qui m'a frappé, parce que je lui arrachais des mains un marteau levé sur Maurice. Chopin, que tout le monde me disait être mon plus fidèle et plus dévoué ami, c'est admirable. Mon enfant, la vie est une ironie amère, et ceux qui ont la niaiserie d'aimer et de croire doivent clore leur carrière par un rire lugubre et un sanglot désespéré, comme j'espère que cela m'arrivera bientôt. Je crois à Dieu et à l'immortalité de mon âme. Plus je souffre en ce monde, plus j'y crois. J'abandonnerai cette vie passagère avec un profond dégoût, pour entrer dans la vie éternelle avec une grande confiance.
Elle reprit sa plume une quatrième fois, le 14 août.
Je suis plus gravement malade qu'on ne pense, Dieu merci, car j'ai assez de la vie, et je fais mon paquet avec beaucoup de plaisir. Je ne vous demande pas de nouvelles de Solange, j'en ai indirectement. Quant à Chopin, je n'en entends plus parler du tout, et je vous prie de me dire au vrai comment il se porte, rien de plus. Le reste ne m'intéresse nullement, et je n'ai pas lieu de regretter son affection.
Il y a dans plusieurs passages de ces documents une forte dose de ce mélo que Chopin trouvait si haïssable, et le désir évident d'en tirer tout le pathétique possible. Mais sans doute y a-t-il aussi des accents authentiques. Il est probable qu'elle-même ne s'y reconnaissait pas trop bien. George Sand a souffert de cette rupture dont elle était la cause, l'agent et la victime. Si l'on n'entend plus ici les mêmes cris qu'au temps de Venise, c'est que 13 années avaient passé depuis l'expérience Musset. Mais peut-être lui fais-je la part trop facile. Car qu'est-ce que les années pour les cœurs passionnés? Non, le vieillissement est une mauvaise raison. La seule véritable, c'est que cette femme n'arrache plus de son âme rien de vivant. Si elle n'est pas encore parvenue au temps des grands froids, dont nous avons déjà parlé, au moins arrive-t-elle à celui des premières sérénités. Époque favorable pour sa littérature. Elle le pressent si bien qu'elle l'a choisi précisément pour entamer l'histoire de ma vie, le meilleur de ses livres. Quant à Chopin, se plaindre n'était guère dans sa nature. Même en ces semaines mortelles, sa peine fut d'une admirable discrétion. Comme autrefois, comme toujours, elle se fit et se défit en dedans. Nul blâme ne passa sa bouche. À Louis Viardot, le mari de la cantatrice qui l'interrogeait, il répondit simplement
« Le mariage de Solange est un grand malheur pour elle, pour sa famille, pour ses amis. La fille et la mère ont été trompées, et l'erreur a été reconnue trop tard. Mais cette erreur partagée par toutes deux, pourquoi n'en accuser qu'une seule? La fille a voulu, a exigé un mariage mal assorti, mais la mère, en consentant, n'a-t-elle pas une part de la faute? Avec son grand esprit et sa grande expérience, ne devait-elle pas éclairer une jeune fille que poussait le dépit plus encore que l'amour? Si elle s'est fait illusion, il ne faut pas être impitoyable pour une erreur qu'on a partagée. Et moi, les plaignant toutes deux du fond de mon âme, j'essaye de porter quelques consolations à la seule d'entre elles qu'il me soit permis de voir. »
Il voulut informer sa sœur de ces événements, mais n'y parvint pas du premier coup. Écrire certains mots et parfois pour soi-même d'une cruauté si grande. Enfin, après avoir brûlé plusieurs feuilles de papier, il réussit à exprimer l'essentiel dans sa lettre de Noël.
25 décembre 1847. Mes enfants bien-aimés, je ne vous ai pas répondu immédiatement parce que je suis horriblement occupé. Je vous expédie par la voie ordinaire des gravures de Nouvel An. J'ai passé la vigile d'avant-hier de la manière la plus prosaïque, mais j'ai pensé à vous tous, à vous, mes meilleurs souhaits, comme chaque année. Sol est chez son père, en Gascogne. Elle a vu sa mère en passant, elle a été à Nohant avec les Duvernay, mais sa mère l'a froidement reçue, et elle lui a dit que si elle se séparait de son mari, elle pourrait revenir à Nohant. Sol a vu sa chambre nuptiale transformée en théâtre, son boudoir en garde-robe d'acteur, et elle m'écrit que sa mère ne lui a parlé que d'affaires pécuniaires. Son frère s'amusait avec son chien, et tout ce qu'il a trouvé à lui dire, c'est « Veux-tu manger quelque chose ?» Maintenant, la mère paraît plus fâchée contre son gendre que contre sa fille, quoique dans sa fameuse lettre, elle m'ait écrit que son gendre n'est pas méchant, que c'est sa fille qui le rend ainsi. On pourrait croire qu'elle a voulu se débarrasser en une fois de sa fille et de moi, parce que nous étions incommodes. Elle restera en correspondance avec sa fille, ainsi son cœur maternel, qui ne peut complètement se passer des nouvelles de son enfant, sera pour un moment apaisé et sa conscience endormie. Elle pensera être juste et me proclamera son ennemi parce que j'aurai pris le parti de son gendre qu'elle ne tolère pas, uniquement parce qu'il a épousé sa fille. Tandis que je me suis opposé à ce mariage tant que j'ai pu. Singulière créature, avec toute son intelligence. Une frénésie la prend et elle brouille sa vie, elle brouille l'existence de sa fille. Avec son fils aussi, ça finira mal, je le prédis et je l'affirme. Elle voudrait pour son excuse trouver des torts à ceux qui lui veulent du bien, qui croient en elle, qui ne lui ont jamais fait de grossièreté, et qu'elle ne peut souffrir auprès d'elle parce qu'ils sont le miroir de sa conscience. C'est pourquoi elle ne m'a plus écrit un seul mot. C'est pourquoi elle ne viendra pas cet hiver à Paris. C'est pour cela aussi qu'elle n'a pas dit un seul mot à sa fille. Je ne regrette pas de l'avoir aidée à supporter les 8 années les plus délicates de sa vie, celle où sa fille grandissait, celle où elle élevait son fils. Je ne regrette pas tout ce que j'ai souffert, mais je regrette que sa fille, cette plante si parfaitement soignée, abritée contre tant d'orages, ait été brisée dans les mains maternelles par une imprudence et une légèreté que l'on pourrait passer à une femme de 20 ans, mais non à une femme de 40. Ce qui a été et n'est plus ne s'inscrit pas dans les annales. Quand plus tard elle plongera dans son passé, Madame S. ne pourra retrouver dans son âme qu'un bon souvenir de moi. Pour le moment, elle est dans le plus étrange paroxysme de maternité, jouant le rôle d'une mère plus juste et plus parfaite qu'elle ne l'est réellement. Et c'est une fièvre contre laquelle il n'y a pas de remède, surtout quand elle s'empare d'une telle exaltée qui se laisse aller sur un sol mouvant. Dans les débats paraît un nouveau roman de Madame S. dans le genre des nouvelles berrichonnes, comme La Mare au Diable, qui commence admirablement. Il s'appelle François Le Champy. Il parle aussi de ses mémoires, mais dans une lettre à Madame Marliani, Madame S. écrivait que ce seraient plutôt les pensées qu'elle a eues jusqu'à présent sur l'art, la littérature, etc., et non ce qu'on entend généralement par « mémoire ». En effet, il est trop tôt pour cela, car la chère Madame S. aura encore beaucoup d'aventures dans sa vie avant de vieillir. Il lui arrivera encore beaucoup de belles choses, et de vilaines aussi.
L'ironie n'est guère méchante, et l'ennemi, qui devait la tailler en pièces, bien doux. Vraiment, il faut admirer comme l'artiste tient sa volonté en main. Ce même jour aussi, il écrit à Solange.
Combien le récit de vos 2 visites à Nohant m'a attristé. Cependant, le premier pas est fait. Vous avez montré du cœur, et il s'en est suivi un certain rapprochement, puisqu'on vous a prié d'écrire. Le temps fera le reste. Vous savez qu'il ne faut pas prendre à la lettre tout ce qu'on dit. Si l'on ne veut plus connaître un étranger comme moi, par exemple, telle chose ne peut arriver à votre mari, puisqu'il appartient à la famille. J'ai des étouffements, des maux de tête, et je vous prie d'excuser mes ratures et mon français.
Voici janvier de 1848. Février. Bientôt 10 mois que Georges et Frédéric sont séparés. Mais Chopin ne guérit pas, tout au contraire. Sa tendresse brisée a non seulement tué son cœur, elle a tari la source unique de ses consolations, la musique. Depuis 1847, l'année mauvaise, comme il l'a dénommée, Chopin n'a plus rien composé.
Elle ne m'a plus écrit un seul mot. Ni moi à elle. Confie-t-il à sa sœur le 10 février. Elle a ordonné au propriétaire de louer son appartement de Paris. Elle joue la comédie à la campagne, dans la chambre nuptiale de sa fille. Elle s'oublie, s'étourdit comme elle peut, et ne s'éveillera que quand le cœur lui fera trop mal. Le cœur en ce moment accablé par la tête. Tu fais une croix là-dessus. Que Dieu la protège, si elle ne sait pas discerner le véritable attachement de la flatterie. Du reste, c'est peut-être à moi seul que les autres paraissent des flatteurs, tandis que son bonheur est en effet là où je ne l'aperçois pas. Ses amis et ses voisins n'ont rien compris, pendant longtemps, à ce qui s'est passé là-bas en ces derniers temps. Mais ils s'y sont probablement déjà habitués. Enfin, personne ne pourra jamais suivre les caprices d'une telle âme. 8 années d'une vie à demi rangée, c'était trop. Dieu a permis que ce fussent les années où les enfants grandissaient, et si ce n'eût été moi, je ne sais depuis combien de temps ils seraient avec leur père et non plus avec elle. Et Maurice, à la première bonne occasion, s'enfuira chez son père. Mais peut-être sont-ce là les conditions de son existence, de son talent d'écrivain, de son bonheur. Que cela ne te tourmente pas, c'est déjà si lointain. Le temps est un grand médecin. Jusqu'à présent, je n'en suis pas encore remis. C'est pourquoi je ne vous écris pas. Tout ce que je commence, je le brûle dans l'instant qui suit. Et j'aurais tant à vous écrire. Mieux vaut ne rien écrire du tout.
Ils se revirent une dernière fois, le 4 mars 1848, tout à fait par hasard. Chopin sortait de chez Madame Marliani comme Madame Sand y entrait. Elle serra sa main tremblante et glacée. Chopin lui demanda si elle avait eu récemment des nouvelles de sa fille.
« Il y a une semaine, » répondit-elle.
« Vous n'en aviez pas hier, avant-hier ?»«
Non. »«
Alors, je vous apprends que vous êtes grand-mère. Solange a une fillette et je suis bien aise de pouvoir vous donner cette nouvelle le premier. »
Puis il la salua et descendit l'escalier. Arrivé en bas, il eut un remords et voulut remonter. Il avait oublié d'ajouter que Solange et l'enfant se portaient bien. Il pria un ami qui était avec lui de donner à Madame Sand ce surcroît d'informations, car la montée d'un escalier lui était devenue chose affreusement pénible. Georges revint aussitôt. Elle eût voulu parler davantage et lui demanda de ses nouvelles. Il répondit qu'il allait bien, et s'échappa.
« Il y avait de mauvais cœurs entre nous, »
dit-elle plus tard en racontant cette minute dans l'histoire de ma vie. Quant à Chopin, il rendit compte à Madame Clessinger de cette rencontre fortuite avec sa mère, et ajouta
« Sa santé m'a paru bonne. Je suis certain que le triomphe de l'idée républicaine la rend heureuse. »
Depuis 8 jours, en effet, la révolution avait éclaté. Elle devait singulièrement déplaire au prince Carole. Il écrivit encore à Solange
« La naissance de votre enfant m'a fait plus de plaisir, vous le pensez bien, que la naissance de la République.